combien de temps faut-il de réflexion avant de trouver la bonne vanne et plus largement le bon concept? Est-ce une simple vue de l'esprit ou une méthodologie planifiée avec calcul de risque sur 30 ans? Toujours est-il que le processus de création est toujours compliqué. Beaucoup d'humoristes fument des gros pétards, on a des noms, avant de trouver la bonne idée. D'autres flânent, jus de mangue en main, et repèrent des situations cocasses qui pourraient les inspirer. Bref, pour couper court, je ne reprends pas le nom de la série créée par Navo ici présent. Mais bref, toujours est-il que l'humour est une science au mot près, telle une académie française qui aurait fréquenté un rap contenders. Navo donc, ici présent, va me dire si j'ai eu raison ou tort de faire cette intro dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré, LOL Me Tender.
J'adore le ton podcast préféré, c'est génial.
Comment tu sais que c'est mon podcast préféré?
En fait, c'est juste une déduction.
C'est un ton universel.
Ouais, j'avais juste envie que tu dises « Ouais, mais non, mais évidemment. »
Évidemment.
Évidemment.
Mais ce qui m'a étonné, c'est que tu le savais, quoi.
Ouais, non, mais moi, j'ai...
Je l'avais même pas dit.
Moi, j'ai des grosses...
un peu médium, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Comment ça va, Raph?
Ça va très bien. Je suis ravi d'accueillir Navo.
On a un très, très bel invité, là. C'est cool.
Mais en fait, Raph est aux manettes, parce que moi, j'ai écouté les précédents, et je me dis, mais pourquoi il parle moins que Mounir? En fait, il est en même temps aux manettes.
Ouais. C'est mon côté Kadhafi, tu vois. Parfois, je lui tape sur la main, comme ça, je lui dis, maintenant, c'est à moi de parler et tout.
Ouais,
tu vois.
C'est pas mal.
Ouais.
Et oui, il a un côté tyran, comme ça, faut le savoir.
Ouais, complètement. Des abords très cool, très chill.
C'est ce qu'on pense.
En fait, je suis un dictateur dans l'âme.
Waouh. Voilà. Je sais que tu plaisantes.
Oui. Bon, comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien.
Première question un peu polémique.
Ouais, non, mais tu fais bien de commencer
comment
par les sujets chauds.
Ouais.
Ça va très bien.
Bon. T'as trouvé facilement le studio, là?
Toi, ça va?
Eh ben écoute, on ne pose jamais cette question. Ça me fait vraiment du...
C'est vrai que tu es le premier invité à l'avoir posé. Est-ce qu'on peut déduire que tous les autres sont des connards? Je sais pas.
Est-ce que tu leur as demandé si ça allait aux autres?
Oui, bien sûr. Quand même.
Ça m'étonne des
Et autres. Moi, je me suis toujours senti isolé, tu vois, quand j'attendais quelque part inconsciemment, tu vois, ouais, le retour. Comprends.
Un peu une tristesse dans l'œil.
Et ouais, complètement. T'as pas de jingle un peu tristoun comme ça, des chats qui sont égorgés?
J'ai que des musiques qui donnent envie d'aller à la plage comme le générique.
Eh ben, bon, parfait, bon, très bien, on va s'en tenir à ça.
Du coup, du fait que je t'ai demandé comment ça va, ça va.
Moi, ça me fait très plaisir, du coup.
Ça fait que tu vas encore mieux, quoi.
Et ouais, je vais encore mieux. Là, il fait beau et il fait aussi beau dans ma tête.
Waouh.
Remets générique. Alors Navo, dans les notices bibliographiques que j'ai consultées, tu figures à la Bibliothèque Nationale de France. Tu le savais?
Non, je ne savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est une notice bibliographique?
Alors en fait, c'est une notice bibliographique qui référence un peu des auteurs et des créateurs. Et donc tu es dedans. Voilà.
Wow.
Mais la fiche est vide.
Waouh.
Voilà.
J'ai une fiche vide?
Ouais, t'as une fiche vide avec juste une ligne 2, quoi. J'ai vu ça en consultant.
Mais ça sert à quoi d'avoir une fiche vide?
Eh bien, il faut demander à la Bibliothèque Nationale de France.
Ils ont confiance en moi, ils se sont dit, mettez déjà la fiche.
Ouais.
Ça va arriver, vous inquiétez pas, on est confiants.
Mais aussi dans un classement de fans de BD qui s'appelle BD Jest. Tu connais?
Ah, ça me dit un truc, ouais, BD Jest. C'est assez vieux, non?
Ouais, et moi je me suis dit, c'est un peu comme le Reader's Digest. Des trucs très luxueux qui référencent des voyages et tout, tu vois.
Ça date de l'époque des blogs BD, je crois.
Ouais. Et donc, tu préfères quoi entre la Bibliothèque Nationale de France et le BD Jest, du coup?
Bon, pourquoi choisir?
Ouais, prendre les deux.
Imagine, je suis dans les deux déjà.
Ouais. Déjà, pour la postérité, c'est cool.
C'est quand même la classe.
Ouais.
Après, chez BD Jest, c'est pas vide.
Non, c'est pas vide.
Bon, alors, un point.
Il y a quelques créations de tes débuts parce que tu as commencé, pas que par ça, mais notamment par ça.
Ouais, enfin, quasiment par ça, ouais. Je crois même par ça. Par la BD, par la bande pas dessinée.
Les vrais savent, je peux le dire maintenant. Ouais. J'ai envie de le dire un moment dans l'émission. Ouais. Donc.
Parce que tu sais.
Ouais, moi je sais.
Ben, ouais. Mais c'est vrai, je dis la souvent France, les vrais savent. Les quelques personnes qui me reconnaissent quand même parlent de la bande pas dessinée, je dis ah, toi t'es un vrai.
Allez.
Toi tu viens de jadis. Alors,
moi c'est Noman qui l'avait mentionné dans Les Fonces D.
Noman Osni?
Oui.
Ouais.
Qu'on salue.
Qu'on salue, bien entendu.
Et qui est venu.
Et qui était venu.
Qui était déjà venu. Ouais.
C'était un très, très très bel épisode d'ailleurs. Mais c'était pour notre podcast. Et du coup, la question suivante que j'avais envie de te poser, c'est comment tu qualifierais ton humour? Comment tu, si tu devais lui donner un nom ou un superlatif, comme on dit.
Je sais pas trop parce que ça change, ça varie selon les personnes avec qui je travaille, les supports, les médias. Donc du coup, je sais pas, un humour qui s'adapte.
Ça veut dire que quoi, t'es un caméléon, du coup tu t'adaptes à chaque fois aux interlocuteurs que t'as en face de toi?
Ouais, enfin ce serait prétentieux de dire caméléon, ça fait un peu trop stylé. Je suis un caméléon.
Mais tu es stylé.
Je suis Jarod.
Parce que tu regardes à deux endroits en même temps.
Exactement.
C'est très fort.
Mais en tout cas, je m'adapte. En tout cas, j'essaye toujours. C'est-à-dire que, tu vois, si je rigole avec toi et qu'après oui. tu m'emmènes dans ta famille,
oui.
je vais pas rigoler pareil avec...
Tu rigoleras pas de la même façon avec ma mère
voilà.
qu'avec moi.
Et voilà, donc j'essaye de m'adapter. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de connecter avec les gens. Mais en fait, il suffit pas de faire des blagues comme un gros lourd.
Ouais.
Tu vois, j'adore. Si tu dis, moi, j'adore les jeux de mots. Alors, peu importe qui je suis, j'aime faire des jeux de mots. Bon, t'es lourd 80% du temps, tu vois. Puis de temps en temps, t'es avec tes potes qui adorent les jeux de mots et tout va bien. Que si tu t'adaptes un peu, je trouve que c'est un peu du respect, en fait. C'est une façon un peu de. Ouais, de connecter avec les gens.
Si un jour, un soir, Arthur te demande de participer à Vendredi, tout est permis.
Ouais.
Déjà, est-ce que tu dirais oui?
Non.
Et si c'est oui?
Non. Mais alors, si c'est oui,
alors,
c'est
si t'es obligé, si t'es obligé de le faire.
Ok, si je suis obligé.
Donc tu devras trouver des vannes en conséquence. Tu devras trouver même pas des vannes, mais en fait
attends,
une façon.
Participer en tant que personne.
Oui, en tant que personne, mais quand on participe à ce genre d'émission,
oui,
tu vois, on participe en tant qu'humoriste, donc on doit faire des vannes. Enfin, tu vois. Après, Arthur, un peu la dictature de l'humour.
Arthur,
quoi.
Il est pas très, il est pas bête, donc je pense pas qu'il m'inviterait à Vendredi tout est permis. Mais s'il voit un potentiel en moi et que je suis obligé, bon bah je vais trouver, je vais parler très fort. Quoi.
Et rire très fort.
Ouais, c'est ça. C'est, ouais. Il faut rire
et
très
danser.
Fort et parler très fort. Mais c'est plus ça qui m'embête. C'est pas spécialement les blagues, parce que je trouve que les gens qui sont là-dedans sont des gens plutôt marrants.
C'est vrai.
Le fait que, comme on est dans une ambiance où, en gros, il faut donner un peu l'impression à tous les spectateurs qu'on est tous ensemble à l'apéro avec eux,
oui.
il faut beaucoup, beaucoup rire aux blagues des autres.
Ouais.
Et je ris pas beaucoup quand je trouve que quelque chose est drôle, bon, je souris, tu vois.
Ça, d'accord. C'est ton mort de rire, okay. C'est quand t'es éclaté de rire.
Quand je suis mort de rire, ouais, voilà. Puis c'est très silencieux, voilà.
Donc quand tu rigoles au van de Raph, ou je crois que t'as rigolé à un moment donné quand j'ai fait une vanne,
C'est
van,
possible, hein, ce que vous êtes drôle.
Ça veut dire qu'on est vraiment...
Bon, au top, mais je vais vérifier quand même après au ralenti. Ouais. On va faire un ralenti.
Ouais, ouais. C'est très très rare que j'éclate de rire, et encore moins sur commande.
Ouais.
Après, ceci dit, dans ce type de configuration, parce que c'est une espèce de casting très... comment dire, c'est très bien foutu, les castings de trucs comme Vendredi tout est permis, tous les talk shows,
alors
etc.
Alors on croirait que c'est spontané.
Ouais, voilà. C'est que ça se fabrique comme un Ocean's Eleven ou un Avenger.
Ouais.
Donc finalement, tu peux te retrouver dans un rôle qui est plutôt le rôle d'un Jean-Luc Lemoyne.
Ouais.
Où, par définition, il est celui qui est pince sans rire, qui rigole pas. Mmh. Et c'est juste qu'il faut jouer le jeu de... voilà. Si les autres ont compris et si c'est bien foutu, je peux être dans Vendredi tout est permis, avec une tête complètement neutre, et ouais. Baptiste Le Caplain qui dit « Ah oh, putain, Navo, il a encore marre de rire !» Et c'est drôle. « Arrête de rire comme ça, Navo, putain, qu'est-ce qu'il crie ?» Tu vois.
Il va nous faire une syncope.
Voilà. Et donc, pourquoi pas dans l'absolu. C'est juste que ça ne me dit pas grand-chose, parce que c'est très physique et que je ne suis pas très physique, quoi.
C'est peut-être pour ça que Jean-Luc Lemoyne est parti, d'ailleurs, et de C8 et des autres expériences.
Ah ouais,
pour la sur France 3.
Je sais pas du tout, je savais pas qu'il était parti.
Eh ben, je te le dis, voilà, en exclusivité.
Il y a toujours une petite info de télé, parce qu'il faut savoir que Mounir est un enfant de la télé.
Ouais, ah, je suis d'accord. Un gros enfant de la télé des années 80.
Tu parles d'Arthur.
Exactement, voilà, qu'on salue. Pas.
Moi je le salue.
Oh,
en fait, j'aime beaucoup Arthur, il est très marrant.
Et, mais en fait, il doit être sympa, mais je le connais pas des masses. Ouais. Mais je pense qu'il doit avoir un bon fond. Alors, c'est pas par hasard si j'ai mentionné les Rap Contenders dans mon intro. C'est aussi parce que tu as plus ou moins commencé par là avec Kairon. C'est pour ça que tu avais dit que tu avais commencé par la BD, mais il y a aussi un peu de l'écriture de textes de rap à tes tout débuts, je crois.
Ouais, c'est ça. Je parlais de l'humour quand je parlais de la BD.
Oui.
Le rap,
ah oui, oui,
le rap,
sûr.
C'était... Ah, on rigolait pas.
Donc, c'était... D'accord. Donc, il y a un paradoxe, là.
Pourquoi?
D'accord.
Bah, non, on faisait les deux. On écrivait des conneries, des pièces de théâtre, des trucs comme ça avec Kairon. Et en parallèle, on faisait du rap. Mais le rap, on prenait ça au sérieux. Il y avait un ou deux morceaux marrants, parce qu'il y a toujours un ou deux morceaux marrants dans le rap. Mais
c'est dommage qu'on n'ait pas pu programmer ou diffuser une des chansons que tu as fait avec Kairon.
Et pourquoi vous n'avez pas pu?
Mais parce qu'il n'y en a pas, je crois, si.
Oh bah,
ça se trouve. Il faut un petit travail d'investigation.
Il faut bien chercher, mais
ça aurait été cool d'en mettre.
À une époque, on a fait une mixtape qui s'appelait L'Union fait la force, et c'était la mode. Donc les mixtapes, c'était à l'époque des cassettes.
Ouais.
Hein, on mettait plein de morceaux. Voilà, on mettait plein de morceaux sur une cassette qu'on imprimait avec les moyens du bord et qu'on allait mettre dans les petites boutiques spécialisées à Châtelet et compagnie, spécialisées dans le rap. Mmh. Et le bon délire à l'époque, c'était de réussir à faire des feats et à faire une mixtape de featuring. Et comme on a réussi à sortir cette mixtape de featuring et que les gens qui sont dedans étaient connus ou sont devenus connus, il y a des gens qui ont récupéré les morceaux et qui les ont mis sur Internet. Donc si tu tapes l'Arcane rap, tu dois trouver 4-5 morceaux sur Dailymotion parce que c'est des featuring avec
d'accord,
Sniper et compagnie. Quoi.
Ok, cool. Et c'était quoi tes revendications du coup? Qu'est-ce qui t'animait quand tu faisais du rap?
On était plutôt... à l'époque, on divisait un peu le rap en deux catégories. Il y avait le rap conscient et le rap...
Avec Ideal J, notamment.
Ouais, voilà. Enfin, Ideal J, c'était, c'est toujours droite-gauche, Ideal J et Kery James.
Oui.
Un coup, c'est conscient. Un coup, c'est on tue tout le monde.
Oui.
Alors qu'IAM, par exemple, c'est toujours conscient.
Oui, ça.
Et
oui,
NTM, c'est vrai. Très souvent, ça, c'est plutôt bah, Kyra.
Je sais
voilà.
pas, quand IAM...
Ou Minister Hammer.
Ouais.
Donc nous, on était plutôt du côté conscient de la force, tu vois.
D'accord. Quand IAM chante, elle donne son corps avant son nom, c'est pas tellement conscient.
C'est, plus... c'est pas tellement conscient, mais tu vois, c'est faites attention.
Oui,
voilà,
oui,
c'est
oui,
genre,
oui,
ouais, c'est ouais. pas bitch.
Ouais, ouais.
ouais. ouais, ouais.
Et, donc voilà. Je pense qu'on était un peu. À l'époque, si on était de la même génération, je pense qu'on aurait traîné avec Big Flo et Oli, par exemple. Ça aurait été nos gars sûrs en disant ah, nous aussi, on est tout maigre et on n'est pas des gangsters.
Check. Ok. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui est quand même pour moi un paradoxe. C'est-à-dire que tu fais du divertissement, mais en même temps, il y a des trucs qui t'animent et qui te. Tu vois, comment tu faisais un peu la part des choses, quoi? Comment tu débrouillais un peu pour te débrouiller dans ces deux catégories de pensée?
Bah pour moi, c'est pas opposé. Tu trouves que c'est opposé de vouloir faire rire les gens et de vouloir que le monde aille mieux?
Bah, par exemple, j'ai longtemps fait du journalisme, mais pour sortir du journalisme, j'avais besoin d'un espace d'aération qui était le stand-up, du coup, qui est toujours le stand-up d'ailleurs.
Bah ouais, mais pour moi, c'est pas du tout opposé, le journalisme et le stand-up. La seule opposition, c'est qu'en France, on a tendance à considérer que le journaliste ne doit pas exister en tant que personne et doit être une espèce de truc qui survole,
oui, ouais,
qui survole les gens.
Oui.
Et qui observe les gens.
Une caste.
Alors que dans le stand-up, c'est plutôt, ça part plutôt de toi.
Oui, mais, exactement.
Mais au final, l'œil que tu dois avoir sur la société et le fait d'exprimer des idées, c'est assez proche entre le journalisme et le stand-up. Il y a des stand-uppers, c'est des journalistes pour moi. Ils arrivent, je sais pas, tu prends le dernier Netflix de Shirley, elle vient pour t'expliquer qu'il y a de l'homophobie à Haïti, voilà, elle le ramène à elle-même.
Ça, c'était vraiment c'est une espèce, très très bon.
C'est une espèce de journalisme gonzo, quoi. Le stand-up.
Ouais, mais alors faire rire sur les bacs d'actu, il faut avoir la patte, quoi. Enfin,
c'est pas forcément sur l'actu, c'est sur le monde en général.
Ouais.
Tu vois, j'ai l'impression que ça se mélange plus. Autant il y a 40 ans, bon, j'étais pas né, mais tel que je l'imagine, ou il y a 30 ans, j'étais né, mais j'étais petit, je vois vraiment un écart entre le journalisme et mais maintenant, quand je regarde une vidéo de Brut, et puis que je regarde un stand-upper, il y a parfois plus d'infos et de journalisme dans un stand-up de Haroun ou Fary que dans un truc de Brut sur un décapsuleur, quoi.
Toi, t'es auteur, t'as jamais voulu devenir humoriste. Ça t'a jamais intéressé. T'as jamais voulu monter sur scène.
Être sur scène ?
Ouais.
C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai. En fait, je monte sur scène. Je fais des plateaux, je fais toutes les premières parties de Kian. Donc,
Sur le deuxième spectacle aussi ?
Sur le deuxième aussi, ouais.
Okay. La Pulsion ?
Comment ?
Sur Pulsion ?
Sur Pulsion, je faisais la première partie.
C'était le cas,
oui. D'accord.
Okay. Et sur le nouveau qui s'appelle Une Bonne Soirée, je fais aussi la première partie.
Ok.
Je faisais pas mal les soirées première fois de Yacine. En fait, c'est juste que je monte quand il y a des copains.
Ah, d'accord.
Moi, tu veux me faire monter, il faut juste qu'on traîne ensemble, on se tape des bars, tu viens, on va boire un verre.
Ouais.
Et après, tu me pièges, en fait. On arrive à un endroit, tu fais, oh, regarde, il y a une scène. Bon, on monte tous, t'es pas obligé. Hein.
Bah, c'est la soirée, hein, t'inquiète pas, c'est normal.
Ouais, nous, on va monter, t'es pas obligé. Après, si tu veux monter un moment, dis-moi. Après, je suis là, je bois deux bières, je fais, allez, monte, t'es sérieux. Ouais. Mais j'ai pas le. J'y réfléchis beaucoup, mais j'ai pas. Je comprends. Pour l'instant, mon analyse, c'est que j'ai pas la force de construire un spectacle entier, puis le défendre. Plusieurs soirs par mois ou par semaine si ça se passe bien.
Ou de faire le schéma, je teste des vannes pour mon spectacle.
Voilà, et devenir connu, c'est-à-dire que tout ça, je suis très content d'accompagner les autres dans la démarche, mais la faire pour moi-même, la flemme.
Ouais.
Est-ce que justement, c'est pas parce que t'as vu plein de gens le faire, genre Kian par exemple?
Non, je pense que c'est parce qu'on part pas des mêmes endroits. On n'a pas les mêmes besoins, je pense. C'est que ou en tout cas, on a des besoins communs, et il y en a certains que les artistes qui montent sur scène ont et que moi, j'ai pas.
D'accord.
Je pense qu'il y a toujours un peu une blessure qui fait qu'à un moment, t'as quand même envie qu'on t'applaudisse. Tu vois.
Ouais, mais est-ce que c'est pas tout le monde, ça? Tu penses pas que c'est tout le monde?
Bah non, par exemple, moi, je m'en fous qu'on m'applaudisse.
Ok.
Enfin, que la profession ou que des gens que j'estime viennent me dire « Ah, c'est super, ça me suffit », alors qu'à l'inverse, le public, j'ai tendance... Même si j'y travaille et que je sais que c'est faux et qu'une fois que je suis dedans, c'est pas le cas. Mais on va dire, quand je survole, que je suis un peu en mode théorique, le public, j'ai tendance à me dire, mais je les connais pas.
Ouais.
Il y en a la moitié qui va t'effaine là-dedans. Pourquoi est-ce que je serais content qu'ils m'applaudissent, tu vois? Et donc, il y a ce truc un peu où je préfère le retour des gens que j'apprécie que le retour d'inconnus. Or, monter sur scène, ça consiste chaque soir à avoir des retours d'inconnus, quoi.
Mais pour le coup, c'est carrément direct, et je pense que c'est plus violent, enfin, je sais pas comment dire, mais oui, plus direct et plus instantané en termes de retour, quoi. Plutôt que, effectivement, un public.
C'est pas la violence qui me fait. Tu vois, là, je fais les premières parties de Cannes.
Ouais, voilà.
Vraiment, j'ai zéro track.
Oui, parce que t'es avec Cannes, que tu connais depuis très longtemps.
Ouais, et puis, enfin, même, peu importe, quand je monte, j'ai jamais le track. Parce qu'en gros, je m'en fous de leur avis. Donc, s'ils sont pas contents, je dis, bon, bah, tant pis pour eux.
Ça a pas pris, quoi.
Ouais, voilà, tant pis pour moi, tant pis pour eux. Pour moi, c'est comme des dates, quoi.
Il y a
des gens qui sont hyper stressés avant un rendez-vous, qui sont hyper stressés pendant le rendez-vous, qui sont pleins de regrets après le rendez-vous. Moi, je vais au rendez-vous en me disant, on verra bien ce qui se passe. Ça match, ça match pas.
Ouais.
Et après, au revoir, tu vois. Donc, c'est pour. Mais en même temps, d'avoir cette attitude, ça fait que je me lève pas le matin en disant, il faut absolument que j'aille me faire apprécier du monde.
Ouais.
Et puis l'autre point, c'est le fait d'être connu.
Ça, c'est cool.
Ça m'angoisse pas mal. Maintenant, justement.
Ouais. Non, d'accord. Okay.
Ouais, je préfère qu'une personne tous les deux jours, ou à peu près, voilà, on va dire ça à la moyenne, on va dire une dizaine de personnes dans le mois, me reconnaissent en disant j'ai adoré la deuxième minute de l'épisode 76 de Bloqué, tu vois, que les gens qui font hey, bref, vas-y, photo. Et après, ils partent en courant, hein, comme s'ils avaient volé ton âme. Je trouve que je suis au bon endroit. Je me fais suffisamment reconnaître par des gens, justement, qui ont des bonnes raisons de me connaître. Et pardon, je fais des réponses très très longues.
Ah, non, c'est parfait.
Je vois bien que 17 fois, t'as tendu ton doigt.
Non, c'est pour donner la parole à Raph, qui a plein de questions à te poser aussi.
Et je lui coupe la parole avant même qu'il parle. Tu vois.
Ça, oui.
Ah, c'est pour ça, parce que du coup, notre télépathie n'est pas encore bien au point. Mais oui, ok, j'ai une question. Moi, j'écoutais du coup Radio Navo.
Ouais.
On peut parler d'un excellent jeu de mots déjà pour commencer.
J'y avais même pas pensé.
Bah ouais, c'est vrai, je suis premier à te le dire.
Non. Bah après coup, je m'en suis rendu compte. Mais sur le coup, je me suis pas du tout dit ça à faire Radio Nova. J'ai vraiment pas pensé.
Je trouvais que c'était le meilleur nom. Enfin, c'était tellement
parce
simple.
Parce que
vu que j'aime
pas trop les jeux de mots.
Ah, du coup, tu le regrettes.
Super fort.
Tu le regrettes presque maintenant. C'est...
Non. J'assume. Je suis obligé d'expliquer que c'est pas pour ça. C'est pas du parasitisme de Radio Nova. Sinon, j'aurais parasité une radio bien plus puissante.
Ouais. Ouais, non, il n'y a rien qui me vient avec énergie, donc du coup ça marche pas. Mais oui, je voulais te parler des marchés parlés. Je trouve que ça faisait partie d'un des formats de podcast les plus. Enfin, je trouvais ça hyper original, en même temps tout con dans le dispositif. Et j'ai appris qu'il y a plein de gens qui en ont fait.
Ouais.
C'était quoi ta formule? C'était de se téléphoner à soi-même, en fait, quand tu t'enregistrais ce truc-là?
Ouais, en fait, c'est même pas moi qui trouvais cette formule, c'est un pote qui s'appelle Depol qui faisait aussi des marchés parlés. Qui disait, c'est un peu se téléphoner à soi-même.
D'accord.
Mais moi, j'ai des gens, parmi justement ces formidables personnes qui me reconnaissent et qui donc ont les bonnes raisons pour me reconnaître.
Ouais.
Il y a des gens qui me disent, moi, j'en fais tout seul pour moi-même. Juste, je me réécoute 2 ans plus tard, savoir ce que j'ai dit. Il y a des gens qui me disent, je le fais que pour une personne. Genre, ma meuf ou mon pote est à New York. Moi, je suis à Paris, donc j'enregistre et je lui envoie un long message de 40 minutes où je lui donne des nouvelles. Donc, ouais, il y a plein de... Après, je ne considère pas que j'ai inventé quoi que ce soit. Techniquement, j'ai juste fait ce qui existe déjà, mais...
Bah, le côté un peu boucle sur toi-même était ultra intéressant, parce que c'est vrai que c'est un peu soit se parler à soi-même ou soit se laisser un message à soi-même. Et je voulais savoir si... parce que ça fait longtemps que tu n'as plus fait de podcast, j'écoutais aussi les invités de mes invités sont mes invités, c'est ça?
Ouais.
Et je voulais savoir si c'est un truc qui te titillait, parce que bon, c'est un peu un running gag que j'ai avec les gens qui viennent et qui ont fait des podcasts. Et est-ce que ça t'as envie d'en refaire? Est-ce que c'est un truc qui te tente? Je sais que t'es passé par le Floodcast aussi.
Ouais, j'aimerais bien en faire. Après, on m'invite dans des podcasts, donc moi je suis content. Je fais le vôtre, je fais celui de Charlet.
Sophie-Marie Larouille, je crois aussi.
J'en ai fait pas mal en fait. Je suis content, oui. On m'invite souvent dans les podcasts. Je crois qu'on me reconnaît parmi les gens des podcasts.
De la sphère du podcast.
Voilà,
on peut l'inviter. Il viendra. Et j'aimerais bien en refaire, mais en fait, c'est pareil, c'est de la flemme en fait.
Ouais.
Je suis assez flemmard. C'est-à-dire que je suis là, je me dis, attends, faut installer
les micros,
les machins.
Table.
Tu vois, marcher parler, c'est parce que j'ai moins l'impression d'avoir des trucs à dire.
Ouais.
Donc je me dis, ferme ta gueule quand t'as rien à dire. Et les invités de mes invités, c'est bon, faut organiser, faut appeler les gens, faut en trouver 4 ou 5 qui viennent le même jour, faut installer 5 micros, 5 casques, faut lancer
Pro Tools. Je sais pas comment fait Samelia d'ailleurs, à chaque fois, pour son truc.
Ouais, il se prend la tête. Hein. Ouais, en plus, lui, il filme et tout.
Ouais. Tu fais un peu comme ce que disait Gérard Lanvin, c'est que t'es un glandeur qui aime bosser ou un bosseur qui aime glander.
Ouais, en fait, c'est... Je pense que... Après, je suis pas trop tricheur, mais on va dire dans la mentalité, c'est plus les gars qui passaient plus de temps à créer une anti-sèche qu'à, qu'à réviser. Tu dis, mais vraiment, le temps que t'as mis à imprimer tous les petits papiers, à les cacher dans ta trousse et tout, t'aurais pu apprendre la leçon. Mais tu te dis, non... Mais non, j'ai bien niqué le système, frère.
Trouver l'astuce.
Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu les gens qui font les trucs au dernier moment. En gros, je me dis, bon, si je fais... à chaque fois que je travaille, je me dis, ah, comme ça, après, je vais bien pouvoir rien faire parce que j'ai bien travaillé. Quoi.
Super. J'ai rien à rajouter. J'ai bien envie de faire écouter une chronique qu'on lance pour la première fois et j'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus. C'est Johan Huvel qui lance le premier épisode de son... Courrier des lecteurs, c'est ça?
C'est plus un répondeur, mais c'est plus un répondeur, est-ce qu'il a dit courrier des lecteurs dans
un mail? Ou répondeur, un truc comme ça.
La messagerie.
Oui, voilà. Eh bien, ça sera la messagerie.
Oui, ça sera la messagerie, voilà, et on lance ça.
Bonjour Bruno Muschio, ta boîte vocale est pleine. Reçu le 18 juin 2019 à 11h13.
Salut Navo, c'est moi. C'était juste de la curiosité, tu sais. En vrai, faire l'amour à un crabe, ça va, hein? Il y a des choses tellement plus graves dans la vie. D'ailleurs, tu le vois pas, mais... Il est toujours là, à la maison, tu sais. Et il t'attend. Il joue avec ses petites pinces, comme ça. Sous l'océan, sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Rappelle-moi, s'il te plaît, rappelle-moi.
Reçu le 16 mai 2019 à 16h37.
Salut Navo. Devine qui c'est. This is the Black Pearl, and this is my boat. Johnny Gep.
Reçu le 19 juin 2019 à 14h35.
128, 129, et 130. Putain, Navo, ça fait une heure que je t'attends. Du coup, j'ai fait des pompes. Et tu sais que j'aime pas ça. Alors grouille-toi, mon vieux, s'il te plaît.
Reçu le 24 juin 2019 à 13h04.
Salut Bruno, Vincent Pitel de la Société Globale. Ton compte fait vraiment miskine. Il me fait honte, à vrai dire. Il est comme un furoncle dans mon portefeuille client. Et moi, les furoncles, je les éclate. Voilà, donc rappelle-moi s'il te plaît. Merci.
Reçu le 29 avril 2019 à 23h38.
Salut Navo. Un jour... Tu as dit que la chance respecte ceux qui la respectent. J'aimerais applaudir ce conseil judicieux. Hélas, je n'ai que 2 moignons. Alors, pas facile quand on veut se prendre en main. C'est ce que me reprochait ma femme, avant de me larguer pour un pygmée. Moi, je respecte la chance, mais la chance, en vrai, c'est pute.
Reçu le 11 juin 2019 à 9h16.
Salut Monique, c'est moi. Je sais pas si c'est le bon numéro, ça fait 3 fois que j'appelle, j'en ai marre, j'y vais. Je tenais à dire que c'était pas une olive. C'était juste un petit geste, mal placé, un peu trop bas, mais c'était pas mon intention. Et en même temps, avoue-le, tu l'as kiffé ce WAD, putain. Oui, mon index il était pas au bon endroit, mais ton cul non plus. Alors fais pas chier et va te faire foutre.
Reçu le 30 mai 2019 à 11h08.
Salut Navo, je me présente, Régis Molette, de la DVBGC, du service recouvrement du groupe Natexo. On s'est permis de faire une parodie de Bref, et alors on a eu l'idée avant tout le monde, et là on se retrouve un peu pris de court parce qu'en fait il y a d'autres parodies qui sont sorties, et on voulait savoir si c'était possible d'avoir les droits de Bref du coup. Donc voilà, je vous laisse le lien de la vidéo, c'est http://parodie. Tiré du bas du 6 donc bref/natexo.com. voilà, donc si vous pouvez nous envoyer un petit courriel ou un recommandé avec du coup la licence pour Bref, ce serait fort sympa. Voilà, tenez-nous au courant, ciao ciao.
Retour avec Navo. Bon alors, t'en as pensé quoi?
Eh ben, c'est exactement pour ça que j'écoute jamais mes messages. Parce que voilà, c'est que des trucs comme ça. Ça ne sert jamais à rien.
Donc il a visé juste.
Et bah, je trouve, ouais. Bon, après, bon, il m'a l'air d'être bien dans le surréalisme, oui. Cette personne.
Plutôt, oui.
Il y a un bon petit jeu de mots avec Johnny Gep, on est pas mal.
Oui, ça on en reparlera d'ailleurs.
Bon, on sent que le jeu de mots est pas...
Oui, on en reparlera.
Ce qu'on disait au début avec s'adapter avec les gens, venir au jeu de mots, c'est pas...
Exactement. C'est très compliqué d'écrire pour quelqu'un qu'on connaît pas ou peu.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une obligation d'appropriation de la culture de l'autre pour écrire, pour l'autre?
Ouais, après... le problème, l'expression appropriation culturelle me semble un peu négatif, péjoratif.
Ouais. Mais non, pas tellement. Enfin, tu vois, tu aspires, tu t'imprègnes, tu vois, de la...
Ouais. Ah, que à son service, quoi. Enfin, le fait de s'approprier une culture, c'est après de la réutiliser.
Ouais. Oui.
C'est juste le terme.
T'as pas tort, c'est vrai. Ouais.
C'était juste le terme qui embêtait. Mais sinon, j'ai compris la question, pardon. J'ai blayé. La réponse est oui. Voilà, c'est juste que quand je travaille avec Shirley, après je suis pas là en train de porter du wax et je dis pas le N-word
peut-être pas ce point-là, l'appropriation.
C'est ça, l'appropriation culturelle. Je vais pas dans les soirées zouk après.
Mais c'était plutôt...
Il faut t'imprégner de l'autre. En fait, faut t'imprégner au-delà de la culture, faut t'imprégner surtout de la personnalité de l'autre, de son passé, de ce qui le caractérise et de ce qui fait son originalité dans le monde. Parce que c'est un peu ça la quête suprême, c'est de savoir qu'est-ce qui, chez toi, c'est le cas pour tout le monde, te définit et du coup va être original à regarder plutôt que de voir quelqu'un qui fait... la plupart du temps, les mécaniques sont réutilisables, mais les blagues en elles-mêmes que j'écris avec les gens sont utilisables qu'avec les gens avec qui je les écris, quoi.
Ouais, par culture, j'entendais le mot plutôt univers.
Ouais.
Tu vois ? Et donc ça prend du temps, quoi, finalement.
Ouais.
C'est de la patience, en fait. Auteur, c'est être patient.
Ouais, enfin, c'est surtout l'autre qui doit être patient. Parce que moi, je sais que c'est pour le bien, tu vois. Mais au départ, quand j'ai créé quelqu'un, je lui dis, on va pas écrire, là, pour l'instant. On va traîner dans les rues et on va boire des coups et jouer à la console pendant 3 semaines.
C'est vrai, donc tu fais vraiment ça. Donc tu bois des coups, tu joues à la console, tu te promènes. Tu
passes du temps, quoi.
Tu passes du temps avec la personne pour mieux la comprendre. Tu discutes de choses légères ou importantes. Tu essaies de comprendre qui est cette personne. Et du coup, ça te permet de mieux écrire pour la personne. Mmh. Puisque j'écris qu'avec des gens qui écrivent, j'ai du mal à écrire avec des gens qui n'écrivent pas. Parce que souvent, ils vont être plutôt comédiens et ils vont dire allez, fais-moi, je l'ai déjà fait, mais c'est pas mon kiff. Mon kiff, c'est d'écrire avec des gens comme Kian, comme Shirley, qui en vérité n'ont pas besoin de moi.
Et qui se posent des questions sur leur univers créatif, c'est ça ?
Ouais, entre autres, en tout cas, ils veulent faire quelque chose et on rentre dans des espèces de discussions et de débats d'idées et de où je me fais un peu l'avocat du diable, où je dis je comprends pas où tu veux en venir. Est-ce que c'est comme ça ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quoi que tu veux dire là ? C'est beaucoup de discussions. En fait, par exemple, si, dans le cas de Kian, une session d'écriture, c'est je me pointe en début d'après-midi, on discute jusqu'à 18h et de 18h à 18h27, on écrit.
Ah ouais, d'accord, donc c'est de l'écriture vénère, quoi.
En fait, c'est juste que tu mets sur le papier l'essence de ce que t'as dit précédemment.
Ah ouais, d'accord, du coup que t'as retenu.
Ouais, enfin après là c'est schématique, hein, la manière dont je dis, des fois c'est un peu plus long sur le papier.
Des fois c'est 28.
Des fois t'essaies de trouver un concept et tout, mais en tout cas, l'un comme l'autre, maintenant on a l'habitude, on se stresse pas du tout quand on se dit « bon, il y a un truc à écrire pour lundi, on est samedi », et que tout le samedi on fout rien, et juste on discute. Et on a l'impression de pas avancer. Il y a toujours un moment le dimanche à 18h où on dit bah voilà, ok, c'est bon, c'est ça. Et là, ça va tout seul, quoi.
Ouais.
Et c'est dans mon cas, en tout cas, c'est souvent comme ça. Kian est un peu pareil. On écrit dans nos têtes et le fait de l'écrire techniquement, c'est juste un truc administratif, quoi.
Mmh. Ah oui, pas mal, d'accord.
Ça me fait beaucoup penser au devoir, du coup. Ça m'a replongé dans l'époque où j'attendais le dimanche soir pour faire tous mes devoirs.
Ouais, voilà. Sauf qu'en général, tu essaies de pas y penser à tes devoirs.
Ouais, t'es tu pas fais là, tout pour faire autre chose.
T'es pas là pendant 2 jours à te dire, ok, le problème de maths sera le suivant.
DM, ouais, c'est ça.
Je vais y réfléchir pendant 2 jours, puis au moment où je vais écrire, les chiffres vont danser sous mes doigts. Mais oui, après, sinon, ouais, c'est un peu l'idée, ouais.
Ok.
Est-ce qu'il faut être le plus relax, chill, cool possible pour écrire, pour trouver des idées, pour écrire, du coup. Est-ce que, par exemple, si je me pose devant un ordinateur, bon, là, il faut que j'écrive des vannes. Là, il faut que j'écrive à fond.
Non, ça dépend grave des gens, ça. Je connais vraiment les deux.
D'accord.
Ça dépend des
gens.
Et
les deux, ça marche ?
Bah ouais. L'exemple que je prends souvent, c'est Davy Maurier, qui est un auteur de BD, qui fait aussi du one man.
Ouais.
Et lui, il écrit tous les jours, il se lève le matin pour écrire, quoi.
D'accord. Donc il a son réveil et tout.
Ouais. ou Bernard Werber, il y a des gens comme ça, ils écrivent 4 heures.
Il est pas humoriste, Bernard.
Non, mais tu vois, ça reste de l'écriture, ils écrivent 4 heures d'affilée, alors qu'il y a d'autres auteurs qui vont dire, bah non, moi je marche au bord de mer, et puis un jour, une idée me vient, et je l'écris pendant 20 minutes sur la terrasse d'un café. Ouais. Non, lui, il se lève, bam, devant son ordi, il tape pendant 4 heures, et il garde ce qui est bien, quoi.
Est-ce qu'on a tort pour toi d'isoler l'écriture humoristique de l'écriture tout court, de l'écriture littéraire par exemple, ou journalistique?
Mais qui l'isole?
Moi.
Ah ok, bah t'as tort alors. non, j'ai pas l'impression que ce soit isolé, si?
Bah ouais, moi j'ai l'impression que c'est pas du tout le même genre quoi. Que l'écriture littéraire journalistique, voilà, se ressemble un petit peu dans la formulation du récit, mais que l'écriture humoristique, c'est vraiment un mécanisme, tu vois?
Mais ça veut dire que...
Qui doit déclencher quelque chose en l'occurrence, tu vois?
Oui, mais par exemple Blanche.
Ben, c'est marrant.
Ouais, mais quand elle le sort en livre.
Ouais, mais elle
Pierre Desproges.
Ouais, mais...
San Antonio, oui. Dans l'autre sens.
Ah oui, oui, ça, San Antonio, c'est un très bon
exemple.
Pierre
Dac.
Oui, tu Frédéric Dard. Oui, oui, d'accord.
Frédéric Dard, ouais, Pierre Dac. Enfin, je pense que c'est pas spécialement...
Mais ils font pas du stand-up, tu vois ce que je veux dire?
Bah, Pierre Desproges, c'était quand même beaucoup du stand-up.
C'était... Ouais.
Ouais, on a la limite, quoi.
Ouais, enfin, c'est très littéraire, quoi. C'est très théâtral, oui, hein, oui, tu oui, vois. Moi, si je fais ce que Desproges faisait dans les années 80-90, mais je déclenche pas un rire, je pense.
Bah, si, je pense.
Tu penses?
Okay. C'est Pierre Desproges, quand même.
Oui, bien sûr, mais c'est une question générationnelle aussi. Tu vois?
Ouais.
Je pense que les époques se ressemblent pas, forcément.
Non, les époques se tu ressemblent pas, mais
et
je veux dire
la formulation... Enfin, le sens de l'écriture aussi.
Ouais, mais attends, là, on parle d'époque ou on parle de style? Parce que Pierre Desproges, il a un style.
Et moi, je parle des deux.
Tu vois, il y a plein de gens qui disent que une personne comme Blanche, c'est très proche de Desproges.
Oui. Ouais.
Donc, j'ai pas l'impression que ce soit si éloigné.
Peut-être que les scènes ouvertes, ça me bouffe trop et que du coup.
Ouais, non, mais après je pense qu'il faut pas croire.
Il faut faire rire, absolument.
Il faut pas croire les gens qui le font. C'est surtout ça, en fait. Les gens qui font des petites cases bien étanches, en général, ils ont tort, tu vois. Moi, je viens du rap. Qui aujourd'hui va dire alors à ton avis pourquoi est-ce qu'on fait une telle distinction entre la musique et le rap, tu vois?
Ouais.
C'est terminé. Ouais. C'est juste il y a des gens qui le faisaient jadis et puis petit à petit ils se sont habitués au fait qu'en fait c'est de la musique et que ça rentre dans toutes les catégories.
Ah, enfin, oui,
je veux dire, quand tu regardes les victoires de la musique, ça n'a pas de sens d'avoir un meilleur musique urbaine alors que tous les autres morceaux c'est aussi du rap.
Ouais.
À un moment, tu dis, sinon vous faites un prix meilleur morceau pas urbain, et puis vous appelez ça les victoires de la musique urbaine, en fait. Donc je pense que c'est. Voilà. La distinction, elle est dans la tête des gens, elle est pas. Et je suis pas d'accord avec leur tête à eux. Mais pour moi, les gens qui écrivent peuvent écrire.
Pour tout.
La plupart des humoristes, ils peuvent écrire autre chose. Et inversement. Même si dans l'autre sens, c'est parfois plus dur, parce qu'il y a une espèce de science à avoir pour monter sur scène. Voilà, il y a des trucs, c'est un peu comme de la boxe, faut s'entraîner, quoi.
Oui. Ouais, en fait, je me le dis peut-être pas assez, mais je me rapproche plus de ton analyse que le schéma, en fait, que je construisais, notamment lors de passages sur scène ouverte, où je me disais, non, mais en fait, c'est... Tu vois, par exemple, pour tout te dire, je tiens un blog, tu vois, où c'est purement... de la confession, c'est de la littérature, c'est du sentiment, c'est de l'impression à fond, tu vois. Et ça, c'est mon espèce d'aération qui est vraiment très distinct, quoi, de la scène ouverte, tu vois.
Mais ça, c'est propre à toi. Moi aussi, hein, j'ai un blog où je suis là, je parle très très sérieusement de trucs et d'émotions, etc. C'est pas parce que toi, tu fais une distinction dans ta façon de présenter aux gens en fonction des médias, en fonction des endroits, en fonction des moments, que la distinction, elle existe, surtout que t'es la même personne.
Ouais.
T'es un peu la preuve que les deux peuvent coexister dans quelqu'un.
Oui.
Je pense que c'est le cas de tout le monde.
Ouais, entièrement.
Bon, pardon, c'est mon téléphone.
Pas de soucis, tu veux répondre peut-être?
je vais le mettre en mode avion.
Vas-y, mais ça, pas de soucis. Est-ce que c'est bref qui t'a permis d'avoir une reconnaissance, celle que t'attendais, et donc de la thune? Et est-ce que cette série est ta meilleure œuvre, du coup?
Selon toi.
Alors, en fait, ça m'a donné la carte. C'est-à-dire qu'avant ça, je me disais, ce serait bien que les gens se rendent compte que je suis fort. Je me disais pas, je suis nul, j'aimerais tellement que les gens me disent que je suis fort, je suis assez prétentieux. Dans ma façon d'appréhender la vie.
C'est la marque des grands.
Ouais, non, parce qu'il y a des très grands qui sont humbles aussi. Je suis désolé de te contredire toutes les deux secondes. du coup, au moment de Bref, je me suis juste dit, ah, enfin, une visibilité qui va permettre aux gens de voir ce qu'on est capable de faire. Et c'est tombé sur le truc dans lequel on a mis le plus de cœur à l'époque, parce que c'était une occasion, on se disait qu'on n'aurait pas deux fois avec Kian, et donc on s'est donné à 100%, on a vidé tous nos carnets, on a fait un truc ultra condensé, et il y a eu un alignement de tellement de...
planètes.
Ouais, que du coup, ça a fait qu'après, on avait ce que j'appelle la carte. C'est-à-dire que maintenant, quand je dis « Hey, j'ai une idée », il y a des gens qui écoutent, quoi. Ah. Au cas où ça pourrait marcher. Et donc, c'est un tournant parce que, en fait, ça m'a donné la reconnaissance dont j'avais techniquement besoin pour qu'on me laisse faire ce que je veux, mais j'en avais pas spécialement émotionnellement besoin à l'époque. Peut-être que si c'est là, ça faisait 10 ans que personne me calcule. Là, je
comment ça, émotionnellement, pas besoin?
J'avais pas besoin d'une reconnaissance, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure.
Alors, pour toi, la reconnaissance, elle est purement professionnelle?
Pas professionnelle, elle est des gens que je respecte.
Dans le métier?
Plus que du public, dans le métier ou ailleurs. Tu pourrais ne pas être dans le métier, tu pourrais être mon boulanger, mais qui est trop fort, qui est trop marrant et qui a tout compris à la vie. Si lui, il me dit « Ah, c'est charmé », je dis « Ah, voilà ». Alors que 1000 inconnus à la place, bof. Mais le truc, c'est que dans ce métier, pour être libre, il faut que ça rapporte de l'argent.
Donc il faut convaincre beaucoup de gens?
Il faut convaincre des gens, et bref, ça nous a permis de les convaincre d'avance sur beaucoup de trucs, donc ça nous a laissé vachement plus libres. Je pense pas que si on était arrivé en disant « Ouais, on veut mettre deux mecs sur un canapé avec Bloqué », on nous aurait écoutés. Là, on nous a écoutés parce qu'ils se sont dit « Bon, c'est les gars de Bref, ils reviennent, ils veulent faire un truc. »
Ça tient à rien, finalement.
Ça tient... c'est...
Il faut qu'il y ait une bonne idée, un truc qui marche, et après tu peux proposer plein de trucs qui te paraissent bons pour qu'on t'ouvre plein de portes, quoi. C'est ça qui est cool aussi.
Il faut faire tes preuves, faire tes preuves une fois, voilà. Faire tes preuves une fois.
Après, il faut toujours se challenger, quoi. C'est un mot que je déteste en plus.
Ouais, ouais.
J'aime pas l'utiliser, mais.
Bah ouais, mais tu l'utilises. Qu'est-ce qui t'a pris?
On coupera au montage, j'irai un truc. Je serai comme Ardisson, en fait. Il y aura une chaise vide devant moi et je dirai oui, mais en fait, c'est bien de se.
Tu vas remplacer toutes les questions.
C'est lancer des défis.
Tu vas me faire dire des trucs horribles.
Je suis très mauvais en montage, donc t'inquiète pas, les gens vont le voir.
Yes.
Alors, Johan, dans sa chronique, avait repris une phrase qu'effectivement, moi aussi, j'avais. J'avais remarqué, j'avais noté, la chance respecte ceux qui la respectent. Cette phrase, elle est a priori simple, mais aussi... Alors moi, j'ai trouvé bouleversante cette phrase. Parce que c'est simple, et en même temps, c'est vraiment ça, quoi. Faut le créer, le truc, quoi, tu vois.
En fait, c'est venu d'une masterclass, c'est une phrase de Kian et moi.
D'accord.
C'est venu d'une masterclass qu'on a fait après Bref, où je crois que c'était à Montréal au départ, qu'il nous avait dit, ouais, on aimerait bien qu'il y ait une masterclass où vous donnez des astuces, d'écriture, de machin, des conseils. Donc je me suis dit, bah, on a rien à dire.
Ouais.
On savait pas trop quoi dire. On a dit, bon, on va réfléchir au truc. Parce que moi, j'ai quand même tendance à avoir l'impression qu'après Bref, les gens voulaient savoir comment on avait fait. Sauf que pour moi, il y a une espèce de paradoxe du gagnant. C'est-à-dire qu'en gros, t'as gagné au loto et on te demande quel numéro t'as joué. Et tu dis, bah, moi, j'ai joué le 7, le 11. Mais tu peux m'en parler. Pourquoi le 11? Bah, je sais pas. Parce que le 11, en fait, c'est ma grand-mère. Elle est née le 11. Mais en fait, ça sert à rien. J'ai l'impression qu'on étudie un truc que tu pourras pas spécialement reproduire. À la limite, ceux qui peuvent l'étudier, c'est pas nous, c'est des gens dans le marketing qui peuvent... Du coup, on est parti plus sur des choses, des vrais conseils, on va dire, d'écriture. On n'est pas parti sur un truc, voici comment avoir le succès en 5 clés, tu vois. Ouais. Et parmi les conseils, il y en avait un qui a plutôt marqué les gens, qui était, en gros, nous, on mettait des slides et tout, et on expliquait des trucs. Et à un moment, on dit, voilà, maintenant, on va vous donner le conseil le plus important... le truc sans lequel on n'aurait jamais rien réussi. Donc s'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Et en gros, le slide, c'était « Ayez de la chance
». Provoquez-la, quoi, dans ce sens-là.
Il y avait juste écrit « Ayez de la chance ». Voilà, c'était pas « Provoquer la chance », etc. C'est « Ayez de la chance ». Ouais. Et après, on s'est expliqué. C'est que, a priori, en tout cas dans notre société, hein, je parle pas à l'échelle du monde, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins bien lotis, mais toi, comme moi, on a à peu près les mêmes chances. Au sens où de temps en temps pas de peau, de temps en temps oh putain, quelle belle coïncidence, c'est bien tombé. Et donc du coup ce qu'on a développé, c'est que si tu te comportes du mieux possible et que tu fais le maximum tout le temps, au moment où t'as de la chance, tu respectes la chance.
Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens là
et il faut prendre en compte que tu ne sais pas quand la chance arrive. C'est à dire que tu peux faire 3 vues sur internet et une des 3, c'est Steven Spielberg qui cherchait un gars exactement comme toi. Et tu peux faire 1 million de vues et il se passe rien dans ta vie derrière. Mais si tu commences à réfléchir en disant, bon, ça, de toute façon, ça fait que 3 vues, ça marche pas, je m'en fous, je le fais à l'arrache, tu respectes plus ta chance. Ça veut dire que, bah, dans les 3 vues, il y avait Steven Spielberg, il regarde, il fait, bah, il est nul, ce gars.
Ouais.
Donc, l'idée, c'était de dire que vaut mieux faire les choses à fond, tout le temps, au maximum qu'on peut, et c'est comme ça que tu respectes la chance, parce que du coup, le jour où la chance arrive, le jour où il y a un coup de peau, c'est bien tombé. Voilà, grosso modo, hein, je le résume.
Je suis entièrement d'accord, et c'est une façon et belle et délicate d'en finir avec cet épisode de LOL Meet Tender. Juste une dernière question, quels seront tes prochains projets? Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te voit? Où est-ce qu'on te lit?
Vous pouvez me retrouver en vacances
yes, avec cette musique
m'a mis dans une super ambiance.
J'aurais
pas du tout envie de parler
de
travail.
Des contractions.
Est-ce que tu reprends un mojito déjà pour commencer?
Avec plaisir. Ah, elle est bien.
Elle est bien.
Elle vient d'où cette musique?
C'est Philippe Catherine.
Ah,
le grand.
C'est dans lequel?
C'est dans l'album
Magnum, exactement. Avec Sébastien à la prod, exactement.
Exactement. Très bel album. Du coup, on te retrouve où, en fait?
Certainement en première partie de Kian à la rentrée dans la continuité de son spectacle. Ouais. Peut-être en tournée, peut-être pas sur toutes les dates, mais pareil, en tournée avec le spectacle de Kian. Et puis sinon, on travaille sur d'autres projets plus ou moins secrets.
D'accord, secret défense, attention.
Moi, ouais, c'est pas secret défense, mais
c'est secret.
En fait, c'est. Mais je pense que. Je trouve que ce podcast. Doit avoir les auditeurs à votre image. Donc je pense que ce sont des gens intelligents qui peuvent comprendre que quand on annonce un projet, il peut malgré tout ne pas se faire pour plein de raisons
oui,
différentes.
Absolument. Oui.
Donc là, actuellement, on essaye de faire le film Serge le Mytho.
Il l'a dit.
Cool.
Voilà. Et on verra. Et on verra s'il se fait, puisque la dernière fois, quand on a dit on va faire le film, bref, les gens ont attendu longtemps.
Ils attendent toujours. Tu reviens vraiment quand tu veux, t'es okay. À la maison.
Absolument.
Tu vas tout de suite. On est en retour.
Allez, on fait un deuxième.
Je fais une autre plus freestyle, c'est moi qui t'interview.
Allez, ouais. Ça, on fait ça tout de suite. Je suis chaud.
À très, très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de LOL Meet Tender. Merci, Raph. T'as été parfait.
Merci à toi. Et merci à Nabo.
Et merci à Nabo.
Salut, les amis.
À bientôt.